tous. Vous allez bien? Ouais. Bah écoutez, moi aussi je vais bien et c'est vraiment un honneur aussi pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin, d'être à votre service avec un rond ventre bien arrondi. Voilà. Et je vous rassure tout de suite, il n'y en a qu'un. Comme ça, vous le savez, vous n'êtes pas préoccupé par mon ventre pendant le message. Il y en a un. ce matin, je vais vous. On va parler en fait et on va essayer de répondre à une question que le Seigneur m'a posée et que je vais vous partager et que le Seigneur pose à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous demande si on le comprend. Et ce matin, si tu devais avoir Dieu devant toi, il te demanderait « Me comprends-tu ?» Et il pose la question à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on comprend sa parole? Est-ce qu'on comprend sa volonté pour notre vie? Est-ce qu'on comprend ce qu'il nous donne peut-être parfois de recevoir au travers de songes, de visions? Est-ce qu'on comprend quand on parle, quand la parole de Dieu est expliquée au travers des hommes et des femmes que le Seigneur lève pour son service? Et finalement, en fait, si je viens au quotidien de notre vie est faite de compréhension ou d'incompréhension. Si on parle de communication, combien de fois on a « ah bah je t'ai bien compris » ou « ah bah là on s'est pas compris » et les conséquences d'une incompréhension, ça peut créer de l'animosité, de la différence. Les hommes et les femmes, on sait très bien qu'il y a un gap dans la compréhension. Généralement, les femmes ne comprennent toujours pas comment les hommes font pour faire qu'une chose à la fois, et les hommes ne savent toujours pas comment les femmes font deux choses à la fois. C'est pour voir si vous suivez, hein. J'ai jeté le pavé comme ça, mais vous inquiétez pas, je sais, les hommes, que ce que vous le faites bien aussi. Il y a aussi parfois des... Merci. Il y a aussi parfois des incompréhensions générationnelles entre les plus âgés, les anciens, les plus jeunes. Et on a besoin de travailler pour se comprendre. On ne parle pas toujours le même langage. Et ça peut aussi créer soit des choses positives ou négatives dans nos vies. Lorsqu'on regarde le GPS, si on ne comprend pas le chemin que le GPS nous indique, et moi, ça, je vous avoue que ça arrive très souvent, si Claude me laisse le GPS, souvent j'ai tellement peur de me tromper que je vais lui indiquer une rue trop vite. Je vais dire, bah si, il faut tourner à droite là, et en fait, il fallait encore attendre. Et dans ce cas-là, on est parti pour un détour plus ou moins long, etc. Et notre vie est remplie comme ça de compréhension, d'incompréhension et de conséquences. Et on peut parler aussi dans des phénomènes de société, de comprendre les cultures qui peuvent composer notre société, parfois les religions aussi, de se comprendre ou de pas se comprendre. Et il y a tout le temps des conséquences dans notre quotidien. Et finalement, si nous ramenions ça dans notre relation avec Dieu, quels sont les temps de nos vies ou qu'est-ce que nous comprenons de Dieu et qu'est-ce que nous comprenons pas de Dieu? Quelles en sont les conséquences de cette compréhension et quelles sont les conséquences de notre incompréhension? Et comment pouvons-nous nous faire pour comprendre les choses que Dieu nous donne? Alors, je sais que de parler de compréhension, ça peut faire peur, ça peut paraître très théorique, mais on verra qu'avec Dieu, il n'y a rien de théorique. Et je sais qu'on est tous, on a déjà tous pu être heurtés par des débats stériles de doctrine. La doctrine, en fait, c'est la manière de comprendre la parole de Dieu. Il y a pu y avoir dans des églises des divisions importantes, des disputes importantes sur la compréhension, sur des doctrines. Et Paul lui-même dira que de toute façon, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Donc, je ne suis pas là ce matin pour dire que nous pouvons toujours tout comprendre à tout ce qui se passe dans notre vie et qu'on comprend toujours tout sur l'instant présent. Parfois, il nous faut beaucoup de recul aussi. Et Paul parlera, par exemple, du mystère de l'iniquité. Comprendre Satan, pourquoi Dieu a permis un ange déchu. On peut comprendre son rôle, le fait que Dieu nous a laissé le choix de l'aimer. On n'est pas dans une dictature. Dieu laisse l'homme, la femme aimer ou non, choisir ou non Dieu. Mais comment expliquer qu'un ange puisse être déchu? Ça fait partie des mystères qu'on comprendra là-haut. On peut pas être dans cette dimension spirituelle. Paul dira aussi que nous connaissons en partie. Et même ce que nous connaissons et comprenons, ça reste tellement petit par rapport à la grandeur de Dieu et tellement il est grand, 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 infiniment grand. Donc mon propos ce matin tient vraiment dans le fait que nous sommes appelés à comprendre des choses pour nos vies ici-bas qui impactent nos vies, la vie de l'Église, nos familles, la société. et que c'est finalement cette compréhension de Dieu est appelée à transformer nos vies. Et c'est vraiment mon propos ce matin, je ne rentrerai pas dans l'écueil de débats doctrinaux, ne vous inquiétez pas, mais mon propos ce matin, c'est que le Seigneur nous donne de le comprendre pour que notre vie soit transformée. Ce matin, on a chanté « Viens transformer ma vie ». La transformation, on verra, passe par la compréhension de qui est Dieu et de sa parole. Et pour que nous puissions tous partir sur la même base, je vous propose ce matin que l'on regarde le cœur de Dieu sur les personnes qui sont désireuses de le comprendre. Et je trouve ça, vous allez voir, très intéressant. Prenons, j'ai pris une première situation et on va voir Daniel, ce que Dieu dira de Daniel. Alors, pour ceux qui découvrent un peu Daniel, Daniel, il fait partie, donc, c'est un des personnages de l'Ancien Testament, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Daniel faisait partie de la noblesse juive et de l'élite juive. Et alors qu'Israël sera assiégé par différents rois, il y aura une succession de rois étrangers qui vont venir en fait sur Israël. Et dans ce, ils vont forcément bien voir qu'il y a une élite juive et cette élite juive, ils vont vouloir la prendre à leur service. Et Daniel fait partie de ceux qui vont être au service de ces rois parce qu'il était, c'est vrai, intelligent. Mais il n'y avait pas que l'intelligence naturelle, il y avait l'intelligence spirituelle et la compréhension spirituelle. Et on va voir si on peut afficher Daniel 9, versets 22 et 23. Daniel était donc connu non seulement pour son intelligence, les rois demandaient à ce qu'ils connaissent les sciences babyloniennes, les sciences des peuples étrangers, mais il était connu aussi parmi les rois pour son don d'interprétation et les visions qu'il recevait. Et alors qu'il reçoit l'une des visions, et je ne rentrerai pas dans le détail des visions parce que ce n'est pas mon propos ce matin, là c'est l'ange Gabriel qui visite Daniel, et Daniel dit « Il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. » Sois attentif à la parole et comprends la vision. L'ange dira à Daniel, comprends la vision et j'ouvre ton intelligence. Et si on prend Daniel toujours au chapitre 10, verset 12, il va encore être visité puissamment par l'Éternel. Et là, le Seigneur va lui dire de ne pas craindre. Il va lui dire aussi, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Ah oui, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'Éternel est en train de dire à Daniel, parce que tu as un cœur à comprendre et un cœur humble, je viens te révéler des visions et je te donne la compréhension de ces visions. Et ce matin, je voudrais attirer notre attention sur le fait que Dieu aime s'emparer des cœurs qui cherchent à le comprendre et humblement. Daniel était un homme très intelligent, mais la parole de Dieu nous dit qu'il reconnaissait que tout ce qu'il avait, tous ses dons étaient de Dieu et que le fait qu'il pouvait interpréter des songes des rois, les rois venaient le consulter par rapport à des songes que Dieu leur donnait, dans tout le peuple, personne ne savait interpréter. Mais Daniel savait, parce que Dieu lui donnait de comprendre. Et parce qu'il avait un cœur humble. Et ce matin, Dieu nous dit, j'aime m'emparer des cœurs qui sont humbles, des cœurs qui veulent comprendre mes visions, ma parole. Je vous propose une deuxième situation. On passe dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir l'histoire entre Philippe et un certain eunuque qui était intendant trésorier à l'époque de la reine d'Éthiopie. Et je vous place un peu le contexte. Donc on est dans le Nouveau Testament, Jésus est mort, ressuscité, élevé à la droite du Père, et là s'ensuit une grosse persécution parce que l'Église va vraiment démarrer, l'Église primitive dans la puissance du Saint-Esprit, et on se retrouve au moment où Étienne va être lapidé, et là il y a d'énormes persécutions et les disciples sont obligés de quitter Jérusalem, de partir dans les contrées. Et l'un des disciples, Philippe, lui, il va se retrouver en Samarie. Et en Samarie, il se met à parler du Seigneur. Et alors qu'il se met à parler du Seigneur, il y a des prodiges, des miracles. Ça, comme on dirait dans notre vocabulaire, ça cartonne. C'est une évangélisation qui cartonne, c'est le feu de Dieu. Les gens sont libérés, les vies sont transformées, les gens donnent leur cœur au Seigneur. Et alors que c'est en train de cartonner, voilà ce que le Seigneur va demander à Philippe. Si tu peux mettre acte 8, versets 29 à 39. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. En fait, Philippe, Dieu va lui demander de quitter la Samarie et d'aller sur un chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza. Et Philippe, donc, il accourt et il entend l'Éthiopien qui lit le prophète Ésaïe. Et Philippe va lui demander, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. On voit donc que Philippe, il était en train d'être dans une grande campagne d'évangélisation. Il y a même Pierre et Jean qui vont venir le soutenir pour qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit, pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu, qui sait qu'il y a un eunuque qui passe par là, qui a à cœur de comprendre, il va dire à Philippe, tu viens, tu vas le voir et tu vas lui expliquer la parole de Dieu. T'imagines Thierry et tous ceux qui participent à l'évangélisation, nous, si notre église, et on était dans une grande campagne, et d'un coup, le Seigneur demande à un tel, toi, va là-bas, parce que sur ce chemin-là, il y a un homme, une femme qui a à cœur de comprendre. Et le cœur de Dieu, c'est ça. C'est, il sait qui est prêt à recevoir Jésus-Christ. Il sait qui est prêt à comprendre et qui a envie de comprendre la parole de Dieu, de comprendre Dieu, de recevoir Christ. Mais il sait aussi ceux qui ont le cœur pour lui obéir, pour être envoyés, pour expliquer, pour enseigner, pour instruire, pour évangéliser. Amen. Et Dieu aime s'emparer des cœurs qui sont prêts, soit à comprendre, soit à lui obéir pour le servir. Je vais prendre une troisième situation. Alors j'aurais pu, là c'est, on va parler de Jésus et les disciples. Jésus et les disciples, on voit souvent que Jésus parlait et que souvent avec les disciples, il y avait un décalage parce qu'ils ne comprenaient pas tout et parce que tout n'était pas encore pleinement révélé. Donc j'en ai choisi un. Donc on va prendre le cas de la deuxième multiplication des pains et c'est dans Matthieu 16, versets 5 à 12. Et alors que Jésus se trouve avec ses disciples près de la mer en Galilée, Jésus va être de nouveau ému du fait qu'une foule le suit et depuis plusieurs jours et qu'ils n'ont pas à manger. Et Jésus va réopérer un miracle qu'il a déjà fait. Il va prendre des pains, il va prendre 7 pains et quelques poissons. Il va le multiplier pour toute la foule. Et donc, une fois que la foule a été nourrie, Jésus et les disciples prennent une barque et ils passent donc de l'autre bord. Et les disciples, donc en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Et donc là, en fait, donc comme je vous le disais, on est à la deuxième multiplication des pains. Les disciples étaient présents à la première multiplication des pains. Ils ont vu les miracles et le miracle que Dieu avait fait avec la foule. Là, ils partent dans une autre contrée. Comme d'habitude, ils vont rencontrer des pharisiens qui vont éprouver Jésus. Et d'un coup, en fait, Jésus va leur dire, bah, gardez-vous du levain des pharisiens. Et eux, ils pensent terre à terre. Ils disent, bah, le Seigneur est en train de nous dire, bah, en gros, n'allez pas chercher le pain et du levain chez les pharisiens pour faire le pain. Mais en fait, quand Jésus leur répond, mais je vous parle pas de ça, je suis en train de vous parler de l'enseignement des pharisiens, eh bien, le Seigneur, en fait, il est en train de leur dire, regardez, rappelez-vous des miracles que j'ai faits. Moi, vous nourrir, eh bien, je peux nourrir une multitude. Donc, on s'en fiche des pains physiques. Je vous parle du pain spirituel. Et il disait aux disciples, gardez-vous des pharisiens parce que leur enseignement n'était pas bon. Et ça, les disciples, ils vont avoir du mal à le comprendre et on reviendra dessus un peu plus tard. Et donc, le cœur de Dieu est pour la compréhension. Jésus aimait savoir s'il était compris. La parole de Dieu nous dit aussi que, à un moment donné, Jésus il va poser la question aux disciples en disant « Mais je suis qui pour vous ?» Et résultat, en fait, on voit l'importance de la compréhension pour le cœur de Dieu. Et si c'est important pour Dieu que nous le comprenions, que nous comprenions les songes, les visions, que l'on comprend la parole de Dieu, qu'on comprend ce que le Seigneur dit dans notre cœur, c'est parce qu'il y a un enjeu. Et l'enjeu, il est vital, il est spirituel. Et il est incroyable. Moi, quand Dieu m'a amené à ça, je vous promets, j'étais en pleurs à genoux devant le Seigneur. Et on va prendre la parabole du semeur. Donc, on va démarrer par Matthieu 13, versets 4 à 8. Il est dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Ensuite, nous prenons Matthieu 13, versets 18 à 20, où là, Jésus donne l'interprétation de la parabole. Donc, Matthieu 13, versets 18 à 20. « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » On va répéter. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est le malin qui vient, qui lui enlève ce qui a été semé dans son cœur. Si tu peux passer à Matthieu 13, verset 23, où là, après, on compare à celui qui prend et qui comprend la parole de Dieu, il est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, qui la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. On voit tout de suite la conséquence spirituelle. Tu comprends, tu portes du fruit. Tu ne comprends pas, Satan te vole, tu ne portes pas de fruit. L'enjeu, il est radical. Et en lisant ce passage, je me souviens, j'étais assise dans mon fauteuil et j'étais bouche bée. En me disant, j'avais jamais fait attention, où on parle du malin. Et plusieurs temps, je me suis posé la question pendant plusieurs mois en me disant, mais est-ce que c'est une bonne traduction, le malin? Et en fait, il n'y a pas de... Et ma réponse est oui, c'est la bonne traduction. Et il n'y a pas une zone dans notre vie d'entre-deux, une zone blanche où c'est ni Dieu ni Satan, en fait. C'est soit Dieu dans nos vies, soit la compréhension de la parole de Dieu, soit Satan qui vient et qui nous détourne de la parole de Dieu, où notre semence est volée. Et nous sommes donc appelés à avoir corps, âme et esprit soumis à la pensée de Dieu, soumis à la parole de Dieu. Et Dieu sait exactement pour chacune de nos vies, il sait en fait ce que nous avons compris de lui et ce que nous n'avons pas compris de lui. Et il pourrait nous dire même les situations et les conséquences en disant « mais là, c'est parce que tu m'avais pas compris, là, c'est parce que tu m'as compris, alors il y a pu y avoir telle et telle chose dans ta vie, tel fruit, telle manifestation de moi. » Et quelque part, nos vies sont un cas pratique entier. On apprend et on comprend tout au long de notre vie. J'aime bien quand Antoine dit qu'il apprend encore. Et je trouve ça très encourageant. Et je me dis, j'espère moi aussi, que quand j'aurai les cheveux tout blancs, d'avoir encore ce cœur à dire que j'apprends encore et que je veux encore comprendre. Et mais finalement, notre vie au quotidien, je parlais du quotidien, mais quotidiennement, nous prenons des décisions qui reflètent ou non notre compréhension de Dieu. Et nous sommes appelés à porter du fruit, et nos fruits soit sont la manifestation de ce que nous avons compris, ou si nous ne portons pas de fruits, ça peut être la manifestation de ce que nous n'avons pas compris. Maintenant, je ne veux pas être réductrice parce que je sais aussi que dans nos vies, il y a des fruits qui peuvent prendre du temps, il y a des choses qui peuvent prendre du temps pour se réaliser, on n'a pas la maîtrise non plus de tout, donc je ne veux pas être réductrice. Mais ça n'empêche qu'il y a une conséquence spirituelle qui est automatique dans nos vies. Paul, lui, il parlera de l'intelligence. La compréhension pour Paul, il parlera souvent d'intelligence. Soit notre intelligence est éclairée, est éveillée et sur le bon chemin, ou il parlera d'intelligence obscurcie. Et je vous invite à prendre Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et donc là, Paul fait et montre la contradiction et vraiment l'opposition entre une vie où l'intelligence est obscurcie, on est dans l'impureté, la cupidité dans les choses viles et vaines de ce monde, ou alors nous sommes en train de revêtir l'homme nouveau, nous revêtons l'homme nouveau et nous sommes dans l'intelligence qui est renouvelée par le Seigneur. Amen. Pierre, lui, parlera également de, et je vous invite à prendre 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, il parlera de cette saine intelligence qui est appelée à être éveillée. Et Pierre évoquera également la raison des écrits de Paul. C'est deux Pierre 3, versets 1 à 4 d'abord. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et si tu peux passer ensuite à 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Et au 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, dans la suite de sa lettre, en fait, Pierre citera Paul et il dira en fait que Paul, il fait une chose au travers de ses écrits, c'est qu'il reconnaît qu'il y a des points difficiles à comprendre. Et Paul parlera de ces choses qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc d'un côté, on a la compréhension, la bonne intelligence qui vient du Seigneur, et on le verra dans le point suivant, ou d'un côté, on a l'intelligence obscurcie, les mauvais choix, les mauvais actes, les mauvaises actions, et la ruine, et Satan qui vient nous voler la semence. Et donc nous avons tous une grande responsabilité devant le Seigneur. sur ce que nous comprenons et nous ne comprenons pas de Dieu, et une responsabilité d'autant plus forte quand nous sommes appelés à enseigner, à instruire, une responsabilité aussi dans nos familles, dans la manière dont nous expliquons à nos amis, dans notre sphère d'influence, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comment on leur explique, comment on leur emporte avec exactitude et justesse la parole de Dieu et le salut pour leur vie. Mais finalement, vous pouvez me dire, bah oui, mais de quelle intelligence parlons-nous ? De quelle intelligence parlons-nous ? Parce que finalement, nous sommes tous avec une intelligence dotée d'une intelligence naturelle. On ne l'a pas choisie. Il y a ceux qui sont doués, surdoués, ceux qui sont bac plus 5, bac plus 10, des bac moins 5. Et finalement, en fait, on pourrait dire, bah, on ne part pas d'une même égalité. Mais ce n'est pas cette intelligence-là dont le Seigneur parle. Et je vous invite à prendre 1 Corinthiens, chapitre 2, à compter du chapitre 2, verset 6 à verset 16. Et là, Paul, il va nous parler de cette fameuse intelligence, de cette fameuse révélation qui vient de Dieu. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Et ce matin, j'ai envie de nous rassurer, j'ai envie de nous encourager. Nous comprenons, nous avons la révélation de Dieu en nous parce que nous avons reçu Christ dans notre cœur. Et quand nous recevons Christ, nous recevons la lumière. On l'a chanté dernièrement, la lumière du monde. La lumière qui vient éclairer les ténèbres, qui vient éclairer ce qui était obscurci. Nous recevons la lumière. Et on voit dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples où c'est dit qu'il ouvrit, on l'a vu avec Daniel, mais Jésus le fera avec ses disciples. C'est dit, il ouvrit l'intelligence des disciples pour qu'ils puissent comprendre. Nous connaissons les choses par la révélation, par l'Esprit du Seigneur. Mais nous connaissons aussi les choses et nous rentrons dans l'intelligence aussi par la puissance de la parole, par la puissance de la Bible. Psaume 119, versets 104 et 105. Il nous est dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Donc, c'est-à-dire, par ta parole, je deviens intelligent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et souvent, on entend, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et souvent, on ne prend pas ce qui est juste avant, au verset 104, « Par ta parole, je deviens intelligent. » Si nous voulons être des êtres, des hommes et des femmes intelligents au sens de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à lire la parole, à la chérir et à être enracinés dans la parole. Parce que la parole, c'est Jésus, c'est Christ manifesté qui nous a été laissé, c'est la lumière dans nos cœurs. Amen. Et Paul dira que cette intelligence, nous sommes appelés à la renouveler. Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit, nous sommes appelés à être renouvelés, à renouveler cette intelligence afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout à l'heure, quand Amélie et Antoine parlaient de clarté dans la prière, mais combien de fois avons-nous besoin de clarté de la part de Dieu, de direction ? On peut le faire et on peut avoir nos réponses parce qu'il y a le Saint-Esprit, parce qu'il y a la parole de Dieu qui va venir illuminer nos vies, qui va venir nous tracer le chemin. Amen. Et nous sommes appelés même, c'est dit, à juger les choses. Nous discernons ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque nous étions loin du Seigneur, nous ne pouvions pas. Et même parfois, on dit des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, mais comment se fait-il qu'ils font ça? Mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. C'est là où c'est le plus grave, c'est quand on a reçu, quand on sait et qu'on continue de faire parce que notre intelligence a été éveillée, parce qu'on a connu les choses et parfois on retourne dans le passé, dans les choses anciennes. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, qu'il n'y a pas toujours des réponses toutes faites. Et donc, il y a parfois une manière aussi de s'approprier les choses que le Seigneur nous a données. Et je vais juste évoquer brièvement des grandes lignes parce que on a vu donc le cœur de Dieu, on a vu le fait qu'il y avait un enjeu spirituel au quotidien, à chaque instant de nos vies. Et il y a une manière, il y a des grandes lignes aussi pour pas tomber dans des écueils d'incompréhension de la parole de Dieu. Et je pense que déjà le premier point, c'est d'avoir toujours ce cœur humble et ce cœur qui est ouvert et qui a envie d'apprendre et envie de comprendre. Ce cœur aussi qui cherche à comprendre non seulement entre lui et Dieu, mais qui accepte aussi d'être enseigné et enseignable en fait. Parce qu'on est, si Dieu a donné des dons différents, si nous sommes ensemble, il y a une complémentarité. Et nous sommes tous au bénéfice des uns des autres pour comprendre Dieu, pour comprendre ses plans, pour comprendre ce qu'il veut pour notre vie, pour la société. Il est aussi important de pas être, par exemple, de tomber dans l'envie d'avoir des choses inédites, de se dire, moi, je vais comprendre quelque chose que jamais personne au fil des siècles n'a jamais compris. Il faut aussi se faire attention à ne jamais retirer un passage de son contexte. Et combien de fois on peut juste entendre des choses et les répéter sans même nous-mêmes avoir été les examiner et se dire, mais en fait, de quoi parlons-nous exactement? Dans quel contexte sommes-nous? Et je vais prendre un exemple. Souvent, par exemple, on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie, parce que Paul dira ça. Et ça, bah, si on le comprend mal, on peut se dire, bah oui, lire la parole de Dieu, ça me tue, c'est quelque chose de tellement théorique. Mais l'esprit, par contre, le Saint-Esprit, être dans la puissance, le baptême du Saint-Esprit, ça me vivifie. Mais en fait, quand on prend le contexte de ce passage, Paul est en train de comparer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est en train de parler de la lettre, de la loi qui tue, parce que la loi ne pouvait nous amener qu'à la condamnation, parce que la loi nous permettait de montrer que nous avions besoin d'un sauveur et que nous pouvions arriver à une perfection et à la perfection de Dieu. Mais l'esprit vivifie parce que nous avons reçu la nouvelle alliance qui nous donne la vie éternelle et le pardon des péchés. Si je prends l'exemple, quand on dit, et moi-même je l'ai dit, donc je blâme personne et je ne rigole de personne et je comprends tout à fait le sens. Quand on parle des violents qui s'emparent du royaume de Dieu, on le dit parce que, et souvent on dit, ah, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais le contexte, c'est que Jésus parle des pharisiens et des scribes. Et les scribes Jésus va en faire référence à des cadavres. Il va dire que ce sont des personnes qui ferment la porte du royaume, qui empêchent même d'autres personnes de rentrer dans la compréhension de Dieu. Bien sûr, je comprends le sens et moi-même, je l'ai dit, et ça peut m'arriver encore de le dire. On sait, et c'est vrai que face à l'adversité, notre foi, nous sommes appelés à être des personnes courageuses, des personnes qui ne démentent pas, où on va de l'avant, où on ne regarde pas en arrière, et on doit se saisir des choses que Dieu nous a données. Mais parfois, j'ai peur que quand on parle de violence, ça peut nous amener aussi à des attitudes qui ne sont pas de Dieu. Et moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire « Il faut battre des coudes, tu sais, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Mais battre des coudes, pourquoi? Pour qui? Pour quelle place? C'est pas Dieu. J'ai pas à me battre pour une place, j'ai pas à me battre face à des hommes et des femmes. C'est le Seigneur qui fait les choses. Et finalement, parfois, on en arrive à des rivalités, à des caractères, à parfois une arrogance entre nous parce qu'on dit « C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plutôt des écrits de Paul qui nous dira de persévérer, d'aller jusqu'à la fin de la course, de remporter le bon combat? Mais moi-même, je l'ai dit, donc je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, et ça peut m'arriver encore de le dire. Et je me dis, mais ce qui est important, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on le dit sans même avoir été voir de quoi parlions-nous? Parce que finalement, parfois, on prend juste les choses et on les répète, et on les répète, et on les répète. Et je suis d'accord avec vous, finalement, la conséquence ici, ce n'est parfois des comportements qui peuvent être un peu en décalé par rapport à ce que Jésus aimerait dans nos relations. on va dire, elle est mineure. Mais si on a la même attitude face à des mauvaises doctrines, si on a la même attitude face à des gens qui raillent notre évangile, qui viennent avec des mensonges, et si on n'est pas capable d'examiner. Donc parfois, comment est notre cœur? Quels sont nos automatismes pour être tout le temps dans la juste compréhension des choses? Et vous savez, finalement, cette compréhension, comme je vous disais, nous rattrape toujours au quotidien et peut être vraiment, selon en plus les temps de nos vies, parfois quand on passe au pressoir, la compréhension peut vraiment être fatale dans nos vies et on peut le voir à différents degrés. Et si j'ai un exemple à vous donner, je vous avais déjà parlé du fait que Claude et moi avions été éprouvés avant de pouvoir connaître les joies de la maternité et de la paternité. Et une chose en fait que je vous ai jamais partagée, que je vous partageais ce matin, c'est que quand je suis tombée enceinte la toute première fois, en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était un vendredi et je devais prêcher une semaine et demie plus tard, d'accord? Quand je vais savoir en fait que je suis enceinte, ça va vite partir en cacahuète parce que je vais vite saigner. Donc voilà, et mon taux était très bas, donc on savait que ça passait ou cassait. Mais je savais que je devais prêcher. Et en fait, et en plus, dans la semaine qui suit, je vais faire une gastro. Comme ça, j'avais la totale, j'avais une grossesse où je ne savais pas si elle allait tenir ou pas, et en plus, j'étais malade. Personne ne le savait dans l'église, Antoine ne le savait pas, donc j'avais même aucune pression de personne, d'accord? Mais dans mon cœur, je savais que je devais chercher Dieu pour savoir si je devais prêcher ou pas le dimanche suivant. Et alors que je demandais au Seigneur, et on était le vendredi, donc juste avant le week-end où je prêchais, en fait, je vais déjà demander au médecin, est-ce qu'il me conseille ou non, en fait, de prêcher, d'être debout, ou est-ce que ça peut avoir une conséquence? Les médecins me diront que ça changera pas la donne. Et je vais aller, donc j'étais pas très bien, donc le vendredi, j'étais en arrêt, j'étais chez moi, et je vais dire au Seigneur, tu me parles, tu me dis ce que je dois faire, et je vais me coucher, je prends un temps de repos, et là, je reçois un songe. Et dans ce songe, je vois en fait un homme qui m'explique la parole qui dit, quand Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Et donc, je vois l'explication, et l'explication qui m'est donnée, c'est de dire, le Seigneur me dit « Tu ne peux pas agir sur des choses et tu dois laisser ces choses-là où elles sont et tu dois te concentrer sur les choses sur lesquelles tu peux agir, notamment prêcher ». Et quand je vais me réveiller, le Seigneur va me dire « Viens et suis-moi ». Donc pour moi, c'était très clair, c'était très net. C'est dimanche, je prêche et le Seigneur m'avait donné la force de prêcher, le courage de prêcher dans ces circonstances. La semaine qui va suivre la prédication, je vais me retrouver aux urgences et on va me diagnostiquer une grossesse extra-utérine. Imaginez un peu si je n'avais pas bien compris ce que le Seigneur me demandait. Le Seigneur m'a juste dit... Enfin, il m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit, viens et suis-moi et laisse les choses sur lesquelles tu ne peux pas agir là où elles doivent être. Mais imaginez un instant où si j'avais compris du Seigneur, de viens et suis-moi, prêche et je te donnerai ta grossesse. Prêche et je vais te garder la grossesse. Vous imaginez après dans quel état j'aurais été si j'avais mal compris, si j'avais compris du Seigneur qu'il allait me donner une grossesse alors qu'il ne me l'a jamais dite. Il m'a jamais dit ça, il m'a dit « Viens et suis-moi ». Et comme Sandy disait, et comme on a déjà entendu témoignage, parfois le Seigneur nous dit « Viens et suis-moi ». On doit être appelé, il va nous appeler à tout abandonner. Moi, ça, quelque part après, ça me coûtait forcément de me dire « Bah oui, je prêche », mais j'étais aussi dans la joie de prêcher, j'étais dans la force de prêcher. Et je me disais « Bah ok, j'y vais parce que le Seigneur m'a demandé de le faire ». Mais il m'a jamais dit qu'il me donnerait l'enfant derrière. Il m'a dit « Viens et suis-moi ». Et j'aurais pu tomber dans une... dire, mais Seigneur, tu m'avais dit ça, pourquoi est-ce que ça s'est pas passé, etc. Et j'ai compris la souveraineté de Dieu, et j'ai compris que Dieu pouvait tout me demander, mais que je devais le suivre, et que quoi qu'il se passe, je devais le suivre. Amen. Et il peut arriver comme ça, où finalement, on ne peut pas toujours... où on ne va pas comprendre les choses, et on peut en vouloir à Dieu. Mais tu m'avais dit ça, oui, mais est-ce que tu as bien compris ce que le Seigneur t'a demandé? Donc là, j'ai eu l'intelligence de bien comprendre ce que le Seigneur m'a demandé. Mais pour vous donner, par exemple, un cas où j'ai moins compris, c'est toujours, par exemple, au travers des songes. Ça m'est arrivé deux fois, en fait, où d'un coup, je doute d'un songe et je doute qu'il faille que je remette ce songe, enfin, la parole reçue pour la personne concernée. Et le Seigneur, dernièrement, m'a fait comprendre que dans les deux situations, c'est parce que j'essaie de lire la vie des gens avec moi, en fait, avec mon intelligence. Sauf qu'en fait, il me révèle des choses cachées, donc moi, je ne les vois pas, en fait, je ne les vois pas avec mon œil. Et le Seigneur, dernièrement, m'a reprise en me disant, Élise, ça, c'était juste et tu aurais dû le dire, mais tu regardes avec ton intelligence au lieu de te confier et de t'appuyer sur ma propre intelligence. Donc c'est des exemples très concrets où ça a une incidence. Soit je comprends, je fais, ça porte du fruit, soit comme dans mon cas au travers des songes, je n'ose pas donner et je ne donne pas la parole. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et Dieu est fidèle et il nous aide à grandir, à croître dans la compréhension de sa parole. Et pour l'un des songes, quand je vais me réveiller et que je vais dire à Dieu, mais non, cette personne-là, elle n'a pas besoin d'entendre cet encouragement-là, je vais me rendormir et le Seigneur va me replonger dans le songe et je vais revoir cette personne et je sais que je dois lui donner cette parole parce que Dieu a insisté et Dieu a de l'humour aussi parfois pour nous dire, allez, maintenant, comprends-moi et fais les choses. Et finalement, on pourrait tous écrire des cahiers et témoigner en fait de ce que nous avons compris, des conséquences qui ont été pour nos vies, pour notre prochain, et aussi parfois, bah, malheureusement, des écueils dans lesquels on a pu tomber, des erreurs qu'on a faites. Mais comme on dit, on apprend aussi toujours de ses erreurs. Amen. Et je voudrais finir ce matin avec cette question suivante. Et si on peut afficher Marc 8, versets 16 à 21, parce que lorsqu'il va y avoir donc cette seconde multiplication des pains et que Jésus va se rendre compte que ses disciples ne le suivent pas, ne le comprennent pas tout de suite, il va leur poser des questions. Et je voudrais vraiment finir avec ces questions-là. Si tu peux mettre. Alors, attends, avance un petit peu, verset. Donc, il leur pose cette question en disant, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous des yeux et ne voyez-vous pas? Avez-vous des oreilles et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Et ce matin, en fait, c'est à la réponse de me comprends-tu? Nous pouvons tous y répondre d'une manière ou d'une autre et faire le bilan, en fait, de notre parcours avec le Seigneur. Et se poser la question ce matin, et de faire le bilan chez nous et de se dire, OK, les fois où je ne t'ai pas compris, Seigneur, pour quelle raison? Parce que Dieu est un Dieu qui nous aime et un Dieu qui aime se révéler, qui aime que nous le comprenions. Mais finalement, quelle est la raison pour laquelle on ne l'a pas compris? Est-ce que nous avions le cœur dur? Et moi, quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a montré dans ma vie les fois, et ça va tellement vite, les fois on endurcit notre cœur et finalement on passe à côté de ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Quelles sont les fois où on n'a pas vu, où on n'a pas fait attention? Et quelles sont les situations où on n'a pas eu de la mémoire? Là, quand il leur dit, vous n'avez pas la mémoire, pourquoi? Parce qu'ils ont vu la première multiplication. Alors pourquoi se souciaient-ils du fait qu'ils avaient oublié les pains? Et dans nos vies, est-ce que nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait? Est-ce que nous chérissons ce que le Seigneur a fait dans nos vies? Pour comprendre les situations actuelles et les situations futures dans lesquelles nous passerons. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous inviter, et si les musiciens peuvent revenir, à nous poser cette question en disant, examinons-nous. Qu'avons-nous compris du Seigneur et qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Et humblement allons devant le Seigneur comme les enfants vont vers leurs parents en disant, et demandons à Dieu en disant, aide-moi à te comprendre. Aide-moi à rentrer dans les plans, dans les projets. Aide-moi à avoir le discernement nécessaire pour porter du fruit, pour que ma vie puisse être une vie transformée par le Seigneur. Amen. Nous sommes tous appelés à porter ce trésor, ce merveilleux trésor. Nous avons la lumière du monde en nous. Et peut-être que ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et tu veux rentrer dans les choses de Dieu. Bien, donne ta vie au Seigneur. Accepte-le, il ouvrira ton intelligence. Il ouvrira ton entendement. Amen. Amen.